Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888.
En 1946, John Ford réalise un film majeur, western, titré « My Darling Clementine » en américain, et traduit bizarrement en français « La poursuite infernale ». On pourrait d'ailleurs déjà réfléchir sur la manière étrange dont les titres de films sont traduits, et donc aussi sur la façon dont un film tire sa signification et son sens de sa relation à un élément qui finalement ne lui appartient pas vraiment, c'est-à-dire son titre, puisqu'on voit que le titre peut changer alors que le film reste le même. Et là, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, le titre du film va influer sur notre interprétation de l'œuvre elle-même. Hein. Titrer un film « My Darling Clementine », c'est-à-dire « Clémentine, ma chérie », en quelque sorte, ou bien « La poursuite infernale », ben, c'est plus tout à fait le même film, puisque notre attention n'est pas attirée exactement sur les mêmes éléments. Mais ce qui pourrait être aussi analysé par rapport à ce film de Ford, c'est la relation à l'histoire avec un grand H, la grande histoire. La relation à l'histoire, elle est toujours complexe au cinéma, bien sûr, et ici particulièrement, puisque ce qui est intéressant pour ce film, c'est qu'en fait, John Ford, le réalisateur, connaissait le vrai Wyatt Earp. Il l'avait rencontré, notamment sur des tournages. Wyatt Earp est mort en 1929, donc en 1946, il est mort depuis longtemps. Mais Wyatt Earp avait raconté directement à John Ford le fameux règlement de compte à Hockey Corral qui est raconté donc dans le film. Et Ford revendiquait une sorte de fidélité historique, de fait justement que l'histoire lui avait été racontée par son principal protagoniste. Or, en fait, il y a de nombreuses inexactitudes historiques dans le film. D'abord, Doc Holliday n'a pas été tué au règlement de compte à Hockey Corral, mais seulement blessé. Deuxièmement, par exemple, Wyatt Earp n'a jamais conduit de bétail jusqu'à Tombstone, alors que dans le film, c'est comme ça que l'histoire commence. Enfin, le vieux Clanton, le chef du clan Clanton, eh bien, il était mort bien avant le règlement de compte à Hockey Corral, donc il ne pouvait pas y assister comme dans le film. Mais finalement, c'est peut-être pas si important que ça, puisque l'ambition de John Ford dans le film est probablement beaucoup plus symbolique et esthétique que descriptive ou dénotative. D'ailleurs, la fidélité historique, j'en avais parlé il y a quelques temps dans des chroniques westernosophiques, la fidélité historique en fait n'a pas de sens au cinéma, puisqu'il y a toujours, bien sûr, un écart entre le réel et sa représentation, surtout quand sa représentation est une représentation artistique.
Bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Clanton. Voici mon fils Charles, mon fils aîné.
Est-ce qu'il y a de l'eau potable par là?
Oui, à 2-3 kilomètres, en suivant la piste. Tes vêtements ont l'air plutôt maigres.
Ouais. Moi et mes frères, nous les conduisons jusqu'en Californie.
Si tu n'as pas encore traité avec quelqu'un, je peux t'en débarrasser.
Ça ne m'intéresse pas.
Je te ferai une bonne offre. Je te paierai en argent, $3 par tête.
Non.
Je pourrais monter jusqu'à $5 argent.
J'ai payé plus que ça au Mexique.
Elles auront bien triste allure quand tu arriveras en Californie, fiston.
Elles engraisseront vite dans un pays d'herbage. Ici, c'est une rude contrée. Pas bonne pour le bétail. Bien différente de celle d'où je viens. Comment est-ce qu'on l'appelle?
Derrière la colline, il y a une ville. Appelée Tombeau. Ville épatante.
Tombeau. Oui, connais ce nom-là. Eh bien, moi et mes frères, nous pourrions y aller ce soir, on se ferait raser et nous pourrions boire un coup.
Oui, vous vous amuserez. Ville vivante, ville joyeuse, ce tombeau. On trouve tout ce qu'on veut là-bas.
Merci.
Ce qui peut être intéressant aussi de creuser comme piste pour ce film, c'est la relation à d'autres formes d'expression artistique, et notamment la relation au théâtre. En effet, dans le film, on le voit, les personnages sont toujours plus ou moins en représentation, et d'ailleurs, des éléments du décor jouent comme des scènes. Le porche du bureau du shérif, ou le plancher de l'église inachevé, apparaissent comme autant de scènes sur lesquelles les personnages vont jouer le drame essentiel que raconte ce film. Et puis il y a une séquence où bien sûr la référence au théâtre est plus directe, puisqu'à un moment il y a un acteur qui de manière un peu improbable vient jouer une pièce de théâtre dans ce coin perdu de l'Ouest, et il y a cette magnifique séquence où l'acteur commence à déclamer une tirade de Hamlet, la fameuse tirade de Hamlet, et puis il oublie le texte. Et au moment où il l'oublie, eh bien, Doc Holliday, qui est interprété par Victor Mature dans le film, eh bien, Doc Holliday va reprendre la réplique. Donc, il connaît lui-même Hamlet par cœur, en fait. Hein, il va venir seconder l'acteur. Et puis, donc, il va déclamer ces magnifiques phrases de Shakespeare. Et puis, d'un coup, il va se mettre à tousser parce qu'il a trop fumé et puis il est malade. Et là, c'est un moment vraiment magnifique avec une photographie très, très belle, une texture d'image tout à fait fascinante. C'est vraiment un passage intéressant parce qu'on voit ici que la poésie et l'art de Shakespeare ont la capacité de transfigurer des choses qui, par ailleurs, pourraient apparaître comme finalement très banales et très triviales. Et ça, c'est vraiment une tension qui est souvent à l'œuvre chez John Ford. C'est cette capacité à passer du prosaïque à l'universel, à passer du banal au poétique, de manière comme ça insensible. D'ailleurs, on pourrait faire un parallèle avec Le meilleur des mondes, le livre d'Aldous Huxley, qui est certes pas un western, quoique, hein, puisque c'est quand même une histoire de... On va quand même chercher un Indien dans une réserve à un moment. Et justement, cet Indien, il connaît presque tout Shakespeare par cœur. Alors que les œuvres de Shakespeare dans Le meilleur des mondes sont interdites, comme presque toutes les œuvres littéraires. Et Shakespeare va lui donner l'occasion, à lui aussi, de donner du sens, de mettre en perspective les événements qu'il va vivre et de leur donner une grandeur que ces événements n'ont peut-être pas. Et donc ça fait vraiment penser à ce passage du film de Ford.
Aidez-moi, monsieur.
Seul, la crainte d'on ne sait quoi après la mort.
Veuillez continuer. J'ai peur de... Il y a si longtemps.
Cette contrée inexplorée, où personne ne revient jamais, nous rend perplexes et nous fait plutôt supporter nos maux que fuir vers d'autres souffrances ignorées. Nos consciences ainsi font de nous des lâches.
Enfin, une autre manière de lire le film serait de relier My Darling Clementine aux autres films de John Ford. Notamment, par exemple, on pourrait penser à deux films antérieurs dans lesquels Henry Fonda joue également. En 1939, Ford réalise Versa Destinée avec Fonda qui joue Lincoln, le futur président Lincoln. Et en 1942, il réalise Les Raisins de la Colère avec Fonda qui joue le personnage de Tom Joad, le personnage... un des personnages centraux du film. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer eh bien, que, comme toujours, un acteur, lorsqu'il joue dans un film, il apporte aussi avec lui sa filmographie et ses précédents rôles, surtout quand c'est des rôles qu'il a eus, bien sûr, avec le même cinéaste, comme c'est ici le cas. Qu'est-ce qui est commun à Lincoln et à Tom Joad? C'est que, dans les deux cas, c'est des figures qui luttent contre l'injustice. Lincoln, dans le film de Ford, il s'oppose à un lynchage, et je renvoie sur cette question au livre de Jean Collet, qui s'appelle « La violence et la loi », qui parle donc du cinéma de Ford. Et puis Tom Joad, alors lui, c'est une autre forme d'injustice à laquelle il s'oppose, c'est l'injustice sociale et la violence économique, hein, puisque Les Raisins de la Colère, bien sûr, c'est le thème central du film. Et bien ici, le personnage de Wyatt Earp, le shérif, il s'enrichit de ses harmoniques, hein, il s'enrichit de cette référence plus ou moins consciente au personnage de Lincoln et de Tom Joad. Wyatt Earp, c'est une figure intéressante parce que c'est une figure dans le film aussi qui est en tension avec celle non seulement de Doc Holliday, qui lui en fait vit plutôt un drame existentiel, une autodestruction, qui a du mal à trouver sa place dans le monde et qui est finalement un peu tout le long du film dans un face-à-face avec lui-même en réalité. Et puis la figure de Wyatt Earp, elle est aussi en tension avec celle du chef du clan Clanton, le vieux Clanton, qui est lui une figure despotique, une figure de la violence régressive. qui fait penser à d'autres personnages aussi d'ailleurs de Ford, comme Liberty Valance bien sûr, ou le personnage de Danner dans L'Homme Tranquille, film de 1952. Ici d'abord, donc Lanton, dans My Darling Clementine, c'est la figure qui va éveiller chez Wyatt Earp le désir de vengeance, puisqu'il va tuer son petit frère. Hein. Et ce désir de vengeance, ce qui est intéressant, c'est qu'il va produire, plus ou moins consciemment, un passage de l'ordre fondé uniquement sur la force, donc du désordre finalement, à l'ordre fondé sur le droit. Il va produire un passage de la sauvagerie à une forme de civilisation. Et d'ailleurs, la civilisation, elle est symbolisée aussi dans le film par l'Église, qui est en train d'être construite. Hein. Il y a ce squelette d'Église qu'on voit tout le long du film, qui est en train d'advenir. Et là aussi, donc, chez Ford, comme souvent, on va tisser l'universel et le privé, le familier et le symbolique. Wyatt Earp, par exemple, au départ, il refuse le poste de shérif. On lui propose le poste de shérif parce qu'il a réussi à maîtriser un ivrogne, en gros. Et il dit « ça ne m'intéresse pas ». Mais par contre, une fois que son frère va être tué, il va revendiquer ce poste. Donc, au-delà, on va se dire il revendique le poste pour se venger. Mais en fait, on se rend compte que son but va peut-être aller au-delà. Par exemple, dès la 13e minute du film, scène très célèbre et très fordienne, eh bien, Wyatt Earp va parler à la tombe de son petit frère, justement. Il va lui dire « quand nous partirons, peut-être que des petits gars comme toi pourront vivre en paix ». Fin de citation. Et vous voyez, là, c'est pas seulement son frère qu'il venge, c'est tous les petits gars qui pourront vivre en paix grâce à lui. Et là, donc, on passe en fait du privé, du personnel au politique. Mais à la fois, à la fin du film, les frères Earp vont refuser l'aide qu'on leur apporte pour le rendez-vous d'Hockey Choral en disant, au contraire, c'est une affaire de famille. Donc, vous voyez que tout le film se situe dans cette ambiguïté entre le privé et l'universel. Dans la scène du règlement de compte aussi, il y a un entremêlement entre les deux. Hein. Wyatt Earp parle d'autorité légitime et à la fois, à la toute fin du règlement de compte, il dit au vieux Clanton qu'il souhaite qu'il souffrira autant que son propre père a souffert de la mort de ses fils.
Jette ton fusil et sors de là, vieillard.
Mes fils, Charles, Sam, Fred, Billy.
Tous morts. Je ne vais pas te tuer. J'espère que tu vivras jusqu'à 100 ans. Que tu souffriras autant que mon père souffre. Maintenant, quitte la ville, commence ton voyage.
Donc on le voit, en fait, comme toujours chez ce grand cinéaste qu'est John Ford, s'entrelacent différents motifs, s'entrelacent différentes figures, différents ordres de temporalité aussi. Et sur ce glissement, d'ailleurs, il y a un dialogue tout à fait représentatif entre Wyatt Earp et Doc Holliday. On est autour de la 22e minute du film, qui résume bien cette interférence, en fait. Hein. Wyatt Earp dit « Je resterai le temps de piéger ceux qui ont tué mon frère ». Alors Doc Holliday lui demande de manière un peu ironique « Mais vous n'avez pas l'intention de nous délivrer du mal ?» Et Wyatt Earp répond « Je n'y avais pas pensé, mais c'est une bonne idée. » Fin de citation. Vous voyez, « Je n'y avais pas pensé, mais c'est une bonne idée. » Autrement dit, ben voilà, je vais peut-être venger mon frère et en plus, peut-être je vais faire reculer le mal en général. Dans la prochaine chronique, on parlera d'un autre cinéaste et d'une œuvre assez singulière. Une œuvre d'André de Tott qui a été réalisée en 1955 et qui s'appelle « La chevauchée des bannis ».
Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888. Et sur www.radiogrenouille.com.